Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Il est 7h42, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Albin Ventura, vous recevez donc ce matin le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer.
Bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour Albin Ventura.
Vous êtes celui qui a sans doute le plus milité pour que les écoles restent ouvertes. En tout cas, vous l'avez dit de nombreuses fois publiquement. Pour vous, la fermeture, c'était l'ultime recours. Vous avez dû abdiquer, c'est un désaveu.
Non, pas du tout. C'est la solution de raison, c'est-à-dire une solution d'équilibre. Nous savions bien qu'il fallait prendre des mesures de dernier ressort pour faire face à cette nouvelle vague de l'épidémie. Et l'école en faisait partie. Néanmoins, nous avons vraiment sauvé l'essentiel. D'abord, en faisant en sorte que ce temps de pause soit surtout le temps de vacances tel que prévu, c'est-à-dire les deux semaines des vacances de printemps, même si nous faisons évoluer les dates pour deux zones. Et puis, pour ceux qui restent, il y a assez de l'enseignement à distance. Donc, l'objectif pour moi, c'était d'abord une année scolaire pleinement réussie, si vous voulez, d'avoir été en classe déjà de septembre à fin mars, c'est essentiel et fondamental. Et deuxièmement, de ne pas créer une rupture trop forte. Et donc là, on a une forme de petite parenthèse, je dis bien petite, au mois d'avril, pour ensuite reprendre de plus belle. Et donc, avec tout ce que nous avons fait, l'élève français au monde sera l'un de ceux qui aura eu l'année scolaire 2020-21 la moins anormale possible, la plus continue et si possible sans décrochage, ce qui, je le rappelle, est une exception dans le monde et dont à laquelle il faut tenir plus que tout.
On va revenir dans les détails. Vous expliquez qu'il n'y avait pas plus de contamination à l'école qu'ailleurs, pas plus que sur le lieu de travail ou pas plus qu'en famille, mais pas moins quand même. Vous avez nié l'évidence, Jean-Michel Blanquer ?
Non, pas du tout, non. Je dis toujours la même chose. D'ailleurs, le président de la République l'a rappelé hier dans son allocution. Vous avez beaucoup de gens qui ont énormément insisté sur la contamination à l'école. Les chiffres sont assez clairs, même s'il y a des études parfois un peu contradictoires, mais en gros, il n'y a pas plus de contamination, il y a moins de contamination de la part des enfants des écoles primaires, et puis ça s'accentue un peu
après, au collège et au lycée, forcément.
Oui, mais toute la question est toujours de savoir que font les collégiens et les lycéens quand ils ne sont pas au collège et au lycée. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, je peux le faire. En gros, si vous voulez, ce qui a été montré, c'est qu'il y avait effectivement une part de contamination supplémentaire quand on avait un enfant chez soi de l'âge d'un collégien ou de l'âge d'un lycéen. Je dis bien de l'âge d'un collégien ou de l'âge d'un lycéen. Qu'en est-il d'un collégien qui ne serait pas au collège, en quelque sorte? Enfin, c'est, autrement dit, c'est le fait d'avoir un adolescent chez vous qui fait cela. Mais là, ce qui est important, c'est ensuite les interactions sociales de votre enfant ou de votre adolescent. Et donc, c'est ce qui est touché par les mesures que nous prenons.
Vous prenez mal ce collectif de stylo rouge d'enseignants qui a porté plainte contre vous pour mise en danger de la vie d'autrui, qui dit le ministre Blanquer est notre Bolsonaro à nous, en référence au président brésilien qui minimise le virus.
Non, mais ce qui est excessif et dérisoire, chacun comprend que quand vous êtes en train de vous battre contre quelque chose de très grave, on est dans une situation qui a été comparée à une guerre, et à certains égards, c'est bien ça. Il y a des gens qui ont envie de vous poignarder dans le dos quand vous faites ça, on est obligé de savoir que ça existe et de vivre avec ça, mais c'est évidemment lamentable.
Mais on a envie, quand même, on a perdu du temps, Jean-Michel Blanquer. Je recevais hier Antoine Flahaut, épidémiologiste. Si on avait confiné plus tôt, si on avait confiné il y a deux mois, au moment où les scientifiques mettaient la pression, on aurait pu freiner la circulation du virus. On se dit qu'on est allé jusqu'au point de rupture, en fait.
Écoutez, bien sûr que non. Et je ne suis pas sûr qu'il faille passer l'essentiel de notre temps à commenter les points
bien
passés.
Sûr.
Mais si on regarde ce point, puisque vous m'interrogez là-dessus, lorsque le président de la République a pris cette décision, les prévisions au nom desquelles on voulait lui faire prendre la décision inverse, ne se sont pas vérifiées. Et il a eu bien raison. C'est grâce à lui que nous avons eu un mois de février et un mois de mars à peu près normal. Contrairement à nos voisins allemands ou italiens qui ont fait beaucoup plus de confinement avec des résultats en matière de contamination qui sont loin d'être meilleurs que les nôtres au global. Donc si vous voulez, il faut quand même regarder un peu ce qui se passe en dehors de nos frontières, se rendre compte que c'était justement la bonne décision, que nous avons voulu justement que les enfants n'aient pas une année scolaire interrompue.
L'école priorité absolue.
Vous savez, dans une année scolaire, ce qui se passe du 1er septembre au 30 mars, c'est absolument fondamental. Et donc ce qu'on a déjà réussi est un acquis qui ne sera jamais perdu et qui est essentiel. Et pour moi, les enfants, les adolescents doivent être notre priorité absolue. Et nous avons donc trouvé un chemin d'équilibre, évidemment. Tous les inconvénients créés par la situation, ils ne nous plaisent pas, ça va de soi. Mais face à la contrainte, nous avons pris, je pense, les mesures qu'il fallait.
Jean-Michel Blanquer, donc à partir de la semaine prochaine, c'est un mois d'avril partagé entre écoles à distance et vacances. Les écoles vont fermer 3 semaines, les collèges et lycées 4 semaines, sachant que tout le monde sera en vacances du 12 avril au 25 avril. La semaine prochaine, il va y avoir 4 jours de cours à distance pour les collèges et les lycées, 3 jours pour les primaires parce qu'il y a le mercredi, puis il y a aussi le lundi Pâques. Il n'aurait pas été plus simple de décréter 3 semaines de vacances? Ça, c'est ce que proposait notamment Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France.
Le sujet a été débattu, mais que recherchons-nous? Nous recherchons premièrement à ce que les enfants aient de la continuité pédagogique, donc qu'ils ne perdent pas de temps scolaire. Et donc, évidemment, l'enseignement à distance, de ce point de vue-là, est meilleur que les vacances. Deuxièmement, on recherche à diminuer les interactions sociales, hein, à faire en sorte, très clairement, que les enfants restent chez eux et leurs parents avec tout ce que ça suppose de contraintes, on le sait bien, mais c'est donc ce qui se passe avec l'enseignement à distance.
Comment
donc
vous allez l'organiser, cette continuité pédagogique,
parce que par rapport à la formule des vacances? Et je redis ce que j'ai dit il y a déjà plusieurs jours par rapport à cette proposition sur les vacances. Les vacances, ça n'a de sens que si on fait quand même attention aux interactions sociales pendant les vacances.
Mais oui, mais on n'est pas dans un confinement strict.
Justement.
C'est-à-dire qu'entre 6h et 19h, les ados, ils peuvent vivre leur vie.
C'est pour ça que c'est un système que le président de la République a qualifié de responsable. C'est-à-dire que,
et on est responsable à 16 ans.
Les familles le sont aussi, bien sûr, et c'est nous tous. Et je peux vous dire que je parle souvent avec les élèves, y compris de moins de 16 ans, qu'ils ont un grand sens des responsabilités, parfois supérieur à celui des adultes. Donc tout dépend de chacun. Mais nous avons justement, c'était une des vertus de garder l'école ouverte, que le fait de passer sans arrêt des messages éducatifs aux élèves qui ont très bien compris les enjeux de l'épidémie. Après, il y a des exceptions à ce que je dis, évidemment, mais pour l'essentiel, message de responsabilité qu'on doit passer à tous, c'est oui, c'est les vacances. Ces vacances, d'ailleurs, à certains moments, on organisera, notamment pour les élèves les plus défavorisés, des activités de plein air avec des protocoles sanitaires stricts.
Mais alors ça va se passer
comme besoin d'air qu'il y a actuellement.
Justement, alors on parlait de continuité pédagogique. Donc les cours vont se faire dès la semaine prochaine à distance, en visio notamment.
Oui, bien sûr. Il y a, disons, deux grandes dimensions de ce que nous avons à faire. Il y en a d'autres aussi, mais les deux premières, c'est d'abord, assurer ce que nous appelons la continuité pédagogique à partir de mardi, puisque, comme vous l'avez dit, il y a lundi de Pâques dans l'intervalle.
Et mercredi pour les petits en primaire,
exactement,
notamment.
Donc, assurer cette continuité pédagogique la semaine prochaine. Il y a maintenant des habitudes qui ont été prises depuis un an. Il y a des ressources qui sont très importantes, hein, que chacun peut voir. Il y a le
vous
système...
pensez que pour 3 jours, il y a des enseignants qui vont dire...
Oui, parce qu'il y a des habitudes qui sont prises. Par exemple, les professeurs de lycée, ils sont déjà habitués, puisqu'ils sont en mode hybride pour beaucoup d'entre eux depuis déjà plusieurs semaines. En collège, cela arrive aussi. Ils s'y sont habitués aussi pendant la période 2020 de confinement. Donc, il y a maintenant des réflexes professionnels, si je puis dire. C'est évidemment plus difficile pour l'école primaire et surtout pour les plus jeunes de l'école primaire. Mais néanmoins, de l'enseignement à distance est préparé, avec des ressources qui sont très importantes, je le dis pour tout le monde. Ce que je dis est vrai pour les professeurs, mais aussi pour les familles. C'est-à-dire vous avez d'abord Ma Classe à la Maison, hein, du CNED, auquel on peut avoir recours. Vous avez ce qu'on appelle l'UMNI, que nous avons conçu avec la télévision, qui permet d'avoir... il y a plus de 800 cours enregistrés, correspondant aux différents niveaux scolaires. Vous avez aussi notre site qui s'appelle EduSchool. Vous avez eu des formations pour les professeurs, notamment des formations à distance, de la part de notre opérateur Canopé, tous ces derniers mois. Tout cela fait qu'il y a de la ressource pour cela. Il y a aussi du matériel informatique.
Et pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur ou de Wi-Fi?
Alors justement, depuis un an, nous avons continué, en lien avec les collectivités locales, à avoir des opérations de prêt ou de don de matériel informatique vis-à-vis des familles, en particulier les plus démunies. Et donc même dans cette dernière ligne droite, les trous qui peuvent continuer à exister dans la raquette doivent être comblés autant que possible. Et c'est une des consignes que j'ai données au recteur.
Vous avez déjà estimé un nombre potentiel de décrocheurs, là, pendant la période qui arrive?
Je compte bien qu'il n'y ait pas de décrocheurs. Je rappelle que l'an dernier, nous avons in fine réussi à ce qu'il n'y ait pas de décrochage. C'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer les performances du système scolaire français l'an dernier. Nous sommes un des très rares pays qui, en 2020, a eu moins de décrocheurs qu'en 2019. Et pourtant, rappelons-nous les débats de mai-juin où certains craignaient des centaines de milliers de décrocheurs. Moi aussi, d'ailleurs, on a tout fait pour prévenir ce problème. En septembre, on a récupéré tous nos élèves. Il est évident que tout ce que nous avons fait là, c'est-à-dire maintenir l'école le plus possible et maintenant avoir un système quand même très, très modéré, très équilibré, est fait aussi pour éviter le décrochage. Et je pense qu'on va l'éviter.
Les centres de loisirs vont rester ouverts?
Alors,
les activités parascolaires, les stages, tout ce qui était prévu, quoi.
Oui, alors évidemment, chaque situation est particulière. Il va y avoir un certain nombre de précisions qui vont être données aux acteurs au cours des prochaines 48 heures. Mais en tout cas, ce que nous visons, c'est notamment que pendant la période de vacances, et notamment en milieu urbain, il puisse y avoir des activités de plein air organisées pour les enfants et les adolescents, de façon à ce qu'ils puissent tout simplement avoir quand même des vacances et qu'ils ne soient pas dans des activités où ils ne respectent pas les règles sanitaires.
Pour les parents, comment vont-ils faire si aucun des deux parents ne peut garder les enfants ?
Alors, vous le savez, on a remis en place avec la ministre du Travail depuis hier une prolongation des possibilités d'activité à temps partiel. Donc, l'un des deux parents peut se mettre en activité à temps partiel et cela sans coût pour l'employeur. Mais ce sera de toute façon sur des périodes très courtes. On parle de la semaine prochaine.
Ouais. Et alors, la semaine prochaine, vous accueillez bien les enfants des soignants notamment ?
Oui.
Et quels autres enfants ? De quelles fonctions essentielles ?
Alors, nous allons publier aujourd'hui même la liste des fonctions, mais c'est essentiellement les enfants de soignants, selon une méthode que nous avons déjà utilisée, je rappelle, du 15 mars au 11 mai 2020, c'est-à-dire un système d'accueil avec des personnels dédiés, qui peuvent être de l'éducation nationale ou des collectivités locales, pour que les soignants soient déchargés de ce problème pendant qu'ils sont au service des Français.
Le retour à l'école, Jean-Michel Blanquer, est prévu donc le 26 avril pour les maternelles et les primaires en présentiel. Ce sera à distance pour les collèges et les lycées et en présentiel à partir du 3 mai. C'est un peu le casse-tête. Hein, mais...
Non, ça peut être dit en termes très simples. Ça veut dire, je vais dire la même chose que vous en termes simples. Le 26
Merci.
Avril, tous les enfants d'école primaire rentrent et le 2 mai, tous ceux de l'enseignement secondaire. Mais le 26 avril, ceux de l'enseignement secondaire sont à distance.
Pourquoi les petits rentrent avant ?
Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, on sait qu'ils sont plus sensibles que les plus grands à un temps, un trop long temps sans école. Donc, leur présence physique est encore plus importante. Pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, hein, l'enseignement à distance se fait plus facilement pour les collégiens et les lycéens. Donc, c'est la raison fondamentale. Par ailleurs, c'est vrai qu'ils sont moins contaminants aussi. Donc, c'est une raison de plus pour qu'ils commencent.
Alors, on va faire rentrer des profs pas vaccinés ?
Alors, comme le président de la République l'a dit, à partir du mois d'avril va s'amorcer le premier mouvement de vaccination des professeurs. Là aussi, il y aura un système de priorisation. Alors, je rappelle que déjà, les professeurs de plus de 50 ans avec comorbidité, comme l'ensemble de la population générale avec, de plus de 50 ans avec comorbidité, peuvent être vaccinés. Ensuite,
Vu l'initiative de Rachida Dati à Paris, qui a emmené avec elle les maires de droite. Ils récupèrent les doses restantes et ils font vacciner les professeurs.
Oui,
ça, c'est une bonne idée ?
Alors, l'intention, je la comprends. Et ce qu'il faut, c'est qu'on fasse les choses en bon ordre. Et je suis évidemment à la disposition des collectivités locales et en lien évidemment avec le ministère de la Santé pour ce qui aura à s'organiser. Mais ce qui est important sur ces sujets, c'est de faire les choses dans l'ordre qui convient, parce que ce qui peut paraître une bonne idée à une petite échelle, en réalité, peut être contre-productif à grande échelle. Ce qui est important, c'est qu'encore une fois, c'est que ce soit organisé rationnellement. Il y aura donc des priorisations pour les enseignants. Je pense notamment aux professeurs qui sont en contact des élèves en situation de handicap. C'est vrai aussi de ceux qu'on appelle les AESH, les accompagnants. Mmh. Ils feront partie des premières cohortes. Et puis, progressivement, par critère, la vaccination pour les 1 100 000 salariés de l'éducation nationale, mais aussi, nous pensons à ceux des collectivités locales qui travaillent en établissement scolaire. Donc, tout ceci va se passer selon un certain ordre, alors même que la politique vaccinale de la France se déploie. Hein, je rappelle qu'on va atteindre
donc,
l'objectif...
mi-avril, quoi.
On va atteindre l'objectif de 10 millions de vaccinés mi-avril. On aura, et donc c'est à ce moment-là que s'enclenchera en effet ce que je viens de dire. Il y a ensuite, ce sera autour de 20 millions à la mi-mai, 30 millions à la mi-juin. On est en ligne pour ce déploiement.
Jean-Michel Blanquer, si la pression ne baisse pas, est-ce que vous envisagez une semaine de plus de fermeture des écoles ?
Je vais éviter de prononcer la phrase qui sera reprise ensuite pour dire.
Non, mais
pour laisser imaginer une chose
pareille.
Vous
projetez quand même.
Bien sûr, on envisage toujours tous les scénarios, toujours, y compris la fermeture. Depuis toujours, on l'envisage, donc on n'exclut rien. Donc à toute question de ce type que vous me poserez, je répondrai oui. Mais bien entendu que ce n'est pas l'hypothèse privilégiée, que chacun doit comprendre ce que nous avons visé. C'est encore une fois 2 semaines de vacances en avril, comme prévu, et puis un peu d'enseignement à distance. De chaque côté des vacances, si je puis dire. Mais cette situation doit nous permettre de passer le mois d'avril. Je crois que le président de la République a bien passé le message hier soir. C'est, en quelque sorte, faire le don rond, passer le cap horn au mois d'avril, pour ensuite mieux ouvrir vers le bout du tunnel à partir du début du mois de mai.
Question rapide, réponse rapide. Jean-Michel Blanquer, une question qui n'a rien à voir avec la crise sanitaire. Dire, comme Audrey Pulvar, la candidate socialiste à la région Île-de-France, que l'on peut demander à un blanc de se taire ou de rester spectateur dans une réunion non mixte, c'est maladroit ou c'est une faute grave ?
C'est les deux, c'est lamentable, tout simplement.
Merci Jean-Michel Blanquer.
L'élève français sera l'un de ceux qui aura bénéficié de l'année scolaire la plus normale et la plus longue au monde, vient de nous dire le ministre de l'Éducation nationale. Un ministre que vous pouvez interroger, interpeller et d'ailleurs dialoguer avec lui à partir de 8h15. Vous nous appelez d'ores et déjà au 3210 et vous envoyez vos questions.